Chers amis, est-ce que vous avez tous reçu la petite brochure qui était préparée pour cette conférence? Plusieurs ne sont pas arrivés encore. La rencontre du vendredi soir est plutôt une rencontre amicale et c'est demain que nous commencerons vraiment l'étude de ce thème. Mais comme nous le faisons depuis tant d'années, quand nous venons dans ce lieu qui appartient aux sœurs grises et qui nous loue, nous aimons à dire que celui qui nous accueille, c'est Jésus.
Amen.
Et nous nous retrouvons ensemble ici parce que nous aimons le Seigneur Jésus, qui nous a aimés le premier. Et le lien qui nous lie les uns aux autres, ce ne sont pas des liens d'église, de communauté, c'est la personne même du Seigneur Jésus qui disait dans son testament spirituel qu'il désirait que tous ses rachetés soient un. Et c'est ce que nous désirons vivre dans ces trois journées. J'ai été impressionné tout à l'heure par une réaction de l'un de nos frères qui, voyant que je mettais une parole d'accueil de Jésus, a été surpris que je ne mette pas un mot que lui connaissait. Je connaissais aussi ce mot. Mais c'est peut-être ma faiblesse, c'est peut-être aussi la vieillesse, parce que j'ai remarqué bien des choses. D'abord, il y a seulement une semaine que j'ai réalisé que sur mon invitation qui vous est parvenue dans le courant du mois d'août, je n'avais pas mis le plan derrière pour venir ici à Châteauguay. Évidemment, il y a plus de 20 ans que nous faisons ces rencontres et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié de mettre dans la feuille, au verso, le plan. Et j'espère que vous n'avez pas eu trop de peine à trouver. Du reste, il fallait faire un nouveau plan, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas mis tout de suite. Mais enfin, je m'excuse. La parole d'accueil de Jésus. Dans mon cœur, c'est celle que j'ai appris quand j'étais enfant et qui se trouve dans la version de John Nelson Darby que mon père a voulu que j'aie dès mon enfance parce que c'est la version la plus fidèle qui suit le texte original. Mais en prêchant à droite et à gauche, on se rend compte que peu ont la version Darby. Et pour aider la compréhension de la lecture, j'ai pris la version second. Second 1910, qui a été révisée, mais où il y a encore pas mal d'erreurs, mais quand même pas trop graves. Et voyez-vous, cette fois-ci, j'avais pris le texte de second comme parole d'accueil de Jésus, parce que ce n'est pas vous que moi je veux accueillir. Ensemble, nous sommes accueillis par Jésus, moi le premier. J'ai besoin d'être accueilli par le Seigneur, mais pour se rassembler, il faut un lieu, et nous bénissons Dieu pour la largeur de vue de nos sœurs, qui, comme vous le savez, ont été conduite en son temps par Marguerite Diouville, et nous sommes dans une de ses œuvres qui a suivi le ministère de Marguerite Diouville. Et nous en sommes très reconnaissants, parce que depuis tant d'années, nous pouvons nous réunir ici dans la plus grande liberté et toujours accueillis avec l'amour de ses sœurs. Alors, pour en revenir à ce que j'écrivais ici, parole d'accueil de Jésus, elle se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3e. Et vous voyez, j'ai là trois Bibles. La version Darby, qui suit le texte le plus près possible, dit ceci. Au chapitre 3, verset 10, ce sont les paroles de Jésus à l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Voilà ce que écrit Darby. Moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Ça, c'est la version de JND. Maintenant, la version seconde. Et je crois que la plupart parmi vous avaient la version seconde. Ça, c'est celle qui a été revue à Genève en 1975. Et il y a eu déjà pas mal de corrections. Et la traduction, et vous verrez que ça ne dit pas le contraire de ce que Darby dit. Verset 10 du chapitre 3. Parce que tu as gardé la parole qu'avait dit Darby de ma patience. Et ça veut dire quelque chose, ça. Hein? Qu'est-ce qui patiente? Qu'est-ce qui est patient dans le ciel? C'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il voudrait? Il voudrait nous avoir avec lui. Alors, ce n'est pas une mauvaise nouvelle d'apprendre que peut-être j'y serai bientôt. C'est ce que j'ai appris cette semaine. Hein. Alors, ce n'est pas du tout grave d'aller vers Jésus. J'attends pas la mort, mais je sais que ça peut venir. Et plus rapidement qu'on ne le pense. Alors, parce que tu as gardé la parole de ma patience. Mais second a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Alors c'est cela que j'ai mis sur cette feuille jaune là. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai. Et alors là, dans plusieurs de vos versions, il est dit, je te garderai à l'heure. Tandis que Darby dit, et je suis heureux qu'il dise ça, je te garderai de l'heure de l'épreuve. C'est-à-dire, tu ne passeras pas par cette heure-là. Vous comprenez la différence? Tandis que dans vos Bibles, il est dit, je te garderai à. Ben, bien sûr, il va nous garder à. Mais s'il dit, je te garderai de, ça veut dire, tu n'y seras pas. Et c'est ça que je voulais souligner. Et c'est cela qui est dans mon cœur depuis mon enfance, quand j'ai lu. Mais pour essayer que vous compreniez bien, eh bien, j'ai écrit la version seconde, mais en faisant pourtant la correction, au lieu de A, j'ai mis de. Mais un frère est venu me dire, mais vous auriez dû mettre moi aussi. Vous avez mis seulement aussi. Mais si vous mettez moi, ça fait plus fort. Et je regarde dans Darby, évidemment, il met moi aussi. Mais second, voulant pas répéter deux fois moi, je te garderai la parole de la persévérance en moi. N'est-ce pas? Ça veut dire quand même la même chose. La persévérance en moi. Ou alors la patience. Alors j'ai essayé de corriger, mais ce sera mieux fait. J'y travaillerai cette nuit et vous pourrez mieux lire. Mais je suis très content qu'il y ait ces réactions. Parce que tu as gardé la parole de, ma patience. Alors, il y a l'histoire de deux. Alors, j'ai pris la dernière version corrigée de second, qu'on appelle la seconde révisée de l'Alliance biblique universelle, au sujet de ce deux. Et je vous lis ce qu'il est dit. Verset 10, toujours. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, c'est la même chose que second, je te garderai moi aussi de l'heure. Ça c'est la dernière version. J'ai consulté aussi mes traductions catholiques, ils ont mis aussi de. Alors, c'est quand même très encourageant. Parce que nous allons voir tout cela dans les études qui vont venir. Est-ce que, pour nous, qu'est-ce que nous attendons? Le bog de l'an 2000? On ne nous parle que ça. J'espère bien que vous n'êtes pas venu ici pour savoir ce que je dirais sur le bog de l'an 2000. Ça ne m'intéresse pas. D'abord, peut-être qu'on y est déjà dans l'an 2000. D'après tous les calculs qui sont faits. De sorte que ce qui compte, mes amis, c'est de connaître le Seigneur. Alors, quand on connaît le Seigneur, on peut nous parler de tous les dogmes que vous voulez, ça nous est bien égal, ça ne nous touche plus, surtout que nous croyons à la parole. Mais ce qui est tellement triste, c'est de voir que même dans les églises, on n'y croit plus à cette parole. On prétend qu'on s'inspire de l'Écriture, mais on transgresse la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai eu à cœur, dans cette dernière fin de semaine biblique, de prendre comme thème le siècle présent et le siècle à venir. Et si je devais résumer ce que nous allons voir, je dirais simplement, le siècle présent, c'est le siècle où Jésus ne règne pas. Est-ce qu'il règne maintenant? Sur le monde? Est-ce que le monde l'écoute? C'est le temps, le siècle présent où Jésus ne règne pas. Pourtant, il est venu pour régner. Car qu'est-ce qu'il est? Il est roi. Et il a affirmé à Pilate qu'il était roi. Et qu'il était venu pour rendre témoignage à la vérité. Et il doit régner. Mais pour l'instant, il ne règne pas. Et voilà pourquoi ça va si mal. Et voilà pourquoi il arrive des catastrophes partout. Mais quand il régnera, qu'est-ce qui se passera? Il y aura encore des famines?
Non.
Parce que quand il était là, et que les gens avaient faim, qu'est-ce qu'il faisait? Il multipliait les pains. Est-ce qu'il y aura encore des tremblements de terre? Quand il était là, et que le vent soufflait terriblement sur la mer, il reprenait le vent et la mer et les flots se taisaient. Et quand le Seigneur régnera, eh bien ces choses disparaîtront. Et bien d'autres encore seront changées. Croyez-vous que quand Dieu a créé le monde, les animaux se mangeaient les uns les autres?
Non.
Se dévoraient?
Non.
Ils répondaient à l'appel du premier homme, d'Adam, qui leur donnait des noms. C'est merveilleux. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Que quand le Seigneur sera là, dans ce qui est appelé le siècle à venir, le temps où il régnera, les animaux ne se dévoreront plus. Et il y aura une entente avec les animaux. Non seulement cela, mais toute la terre sera aussi régénérée. Alors, mes amis, c'est passionnant de penser à tout cela. Je vous invite maintenant à reprendre ce petit livret qui commence par ces paroles d'accueil de Jésus, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, ou de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, on peut dire de l'heure de l'épreuve, qui va arriver sur la terre tout entière, sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Vous ne devez pas vous attendre à ce que ça a lieu dans le monde. Parce que vous croyez à la puissance de l'Évangile, l'Évangile doit être prêché, mais il ne convertira pas le monde. L'Évangile ne changera pas le monde. Qu'est-ce qui le changera? La venue en jugement du Seigneur Jésus. C'est maintenant trop grave pour que ça puisse être amélioré. Il n'y a pas d'amélioration pour le monde. Vous devez vous attendre à ça de plus en plus mal, et votre seule joie, votre seule espérance, c'est de savoir que Jésus vient. Et qu'il vient non pas pour être manifesté au monde entier tout seul, mais que quand il viendra, il nous aura déjà pris auprès de lui. Et nous reviendrons avec lui. C'est pourquoi à l'heure de l'épreuve, nous n'y serons pas. Mais quand ça ira au plus mal, et que Dieu remettra à son Fils le jugement pour le monde, nous serons avec lui et nous aurons avec le Seigneur des responsabilités dans l'administration du royaume que lui va établir. C'est ce que nous allons voir dans cette fin de semaine. Alors, j'avais ajouté à ces paroles, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve ou de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je sais qu'il y a des églises qui n'y croient pas. Vous pouvez ne pas y croire, c'est votre affaire. Mais vous ne m'enlèverez pas cette joie et cette certitude qui est dans mon cœur que le Seigneur accomplit toutes ses promesses. J'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. C'est un message qui devrait pénétrer dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Ça nous mène chez les Juifs. Et nous allons voir ce que le Seigneur a préparé pour les Juifs, pour Jérusalem, pour Israël. Puis il ajoute qu'il est non seulement la postérité de David pour Israël, mais qu'il est l'étoile brillante du matin. Et qu'est-ce que c'est que l'étoile brillante du matin ? L'étoile brillante du matin, c'est un astre qui se lève avant le lever du soleil. Et le retour en gloire du Seigneur nous est présenté pour le monde comme le lever du soleil. Mais avant le lever du soleil, ceux qui veillent voient l'étoile brillante du matin. Et l'étoile brillante du matin, c'est Jésus. Il le dit dans la parole, « Je suis l'étoile brillante du matin. » Voilà ce qu'il est. Et si vous avez cette certitude dans votre cœur, si vous avez reçu Jésus, vous savez qu'il viendra vous prendre avant l'heure de la tentation, l'heure de l'épreuve que devront connaître ceux qui n'auront pas cru au Seigneur Jésus et qui devront passer par ces épreuves terribles. Nous n'attendons pas ce moment-là, nous attendons Jésus qui nous délivre de quoi ? La colère qui vient. Mais mes amis, est-ce que vous vous rendez compte que la colère de Dieu vient sur ce monde ? C'est de plus en plus impossible ce que l'on dit de Dieu, ce que l'on dit de Jésus. On n'y croit pas, pratiquement. Le monde ne va pas s'améliorer. Et vous savez, c'est un message qu'on n'aime pas entendre. On aime au contraire vous dire qu'on va faire de grandes choses avec l'Évangile, que ça va changer les mœurs. Vous croyez cela ? On est déjà dans le temps où on ne se marie plus. Et quel était ce temps où on ne se marie plus ? Un temps pire que celui du déluge. Au déluge, avant le déluge, on se marie encore. Au temps de Noé, il a dit qu'on se mariait. Mais au temps de Lot à Sodome, il n'y avait plus de mariage. Et puis, c'était l'homosexualité à fond. Et maintenant, c'est les droits des homosexuels. Ce n'est plus de péché, il n'y a plus de péché. Eh bien, vous rendez-vous compte de ce qui vient sur ce monde. L'étoile brillante du matin, c'est notre bienheureuse espérance. Alors, nous allons maintenant entendre quelques explications de Josaphat Fernand. Je vous ai dit qu'il y avait un petit changement parce qu'habituellement, toutes les questions, on les posait déjà avec les lectures à faire. Ici, nous avons des lectures proposées pour demain matin et les questions suggérées, eh bien, nous voudrions que jour après jour, selon vos besoins, nous puissions ensemble étudier quelque chose qui vous intéresse. Alors, nous avons mis quelques questions. Page 5, que nous allons aborder dans nos études. Comment lisons-nous la Bible ? Vous avez tous une Bible ? Comment la lisez-vous ? L'autre jour, j'avais un deux personnes, un jeune homme et une jeune fille, qui vivaient déjà ensemble. Lui disait qu'il était converti, et je crois que c'est vrai qu'il était converti, mais ils n'ont pas attendu pour le mariage, pour vivre ensemble. Et je m'étais permis de faire cette remarque à la jeune fille, que ce n'était pas selon l'Écriture d'être ensemble sans être mariée. Elle avait très mal pris la chose. Elle m'a dit que je la jugeais. Et évidemment, qu'il était une brave fille. J'ai dit, mais est-ce que tu lis la Bible ? Non, j'ouvre quelquefois, je n'en ai pas, mais j'ouvre la Bible devant. Elle n'a pas dit son mari, mais mon ami. Puis, je trouve des versets qui sont formidables. Est-ce que c'est votre manière de lire la Bible ? Trouver des versets qui sont formidables à un certain moment pour vous encourager ? Si c'est comme cela, vous n'avancerez jamais dans la vie spirituelle. Et vous ne pourrez pas comprendre ce qui vient. Car la Bible nous révèle ce qui va venir sur le monde. Alors vous voyez, on est dans un temps où c'est difficile. Comment lisez-vous la Bible ? Est-ce que vous la lisez d'une façon régulière ? Et vous, est-ce que vous avez, quand vous dites que vous avez lu la Bible, est-ce que vous l'avez lu depuis la première page, comme on lit un livre, jusqu'à la dernière ? Et quand vous êtes arrivé à la dernière, qu'est-ce que vous faites ? On recommence. Ça, c'est l'exemple que j'ai eu de mon grand-père qui n'avait accepté le Seigneur qu'à l'âge de 70 ans, mais qui en a encore eu 20 années à vivre. Et depuis sa conversion, que ma grand-mère m'avait prophétisé, tu sais, grand-papa sera sauvé, je ne le verrai pas, moi. Mais je sais qu'il sera sauvé. Et vous savez, quand il s'est converti, le jour de l'enterrement de ma grand-mère, elle ne l'a pas vu, mais ce jour-là, il a été touché par le Seigneur. Il avait 70 ans. Il avait beaucoup d'amis qui l'entraînaient dans les cafés. Il buvait aussi. Depuis ce jour-là, sans avoir signé l'abstinence, il pouvait venir encore chez ses enfants boire un verre de vin à table, comme on le fait là-bas, mais sans avoir signé quoi que ce soit. Et sa lecture, c'était la Bible. J'ai encore cette vision de mon grand-père sur son fauteuil. J'avais le privilège chaque semaine de le raser et de lui couper les cheveux, tous les mois. Alors, on était assez intimes. Et vous savez, ça m'a marqué. Et je lui disais, quand tu as fini, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je recommence. Et il est arrivé à 90 ans. Et le jour de sa mort, j'étais en Europe, à ce moment-là. Ensuite, on m'a téléphoné, grand-papa s'en va. Est-ce que tu peux venir ? Je suis arrivé. Et je l'ai vu partir. Mais c'était quelque chose de merveilleux. Il s'est levé sur son lit, il a tendu les bras, il était rayonnant de joie. Son corps est retombé. C'est quelque chose, ce que le Seigneur fait. Il partait vers le Seigneur. Et si son visage était illuminé, qu'avait-il vu ? Le Seigneur. Ça, c'est certain. Il avait vu le Seigneur. Il n'avait pas vu la mort. Il avait vu le Seigneur. C'est ça qui est merveilleux. Alors, comment lisez-vous la Bible ? Nous espérons que ces conférences vous auront donné le goût de la Bible. une des dernières séries de conférences que nous avons fait ici, c'était opinion ou conviction. Et nous avons étudié les trois vertus chrétiennes en trois fois. La foi, ensuite l'espérance, et ensuite l'amour. Est-ce que nous avons des opinions ou bien est-ce que nous avons une conviction? Et alors maintenant, nous allons aller plus au fond des choses. Il y a une deuxième question. Est-ce qu'on peut vous la poser, cette question? Pourquoi pouvons-nous croire que ce livre est la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que c'est la parole de Dieu? Si ce n'est pas la parole de Dieu, autant la laisser. Hein. Pourquoi est-ce que je crois à l'inspiration des Écritures? Pourquoi est-ce que je crois que c'est Dieu qui l'a dit? Parce que depuis plus de 82 ans que je vis, eh bien, j'ai réalisé dès mon enfance que toutes les promesses que je trouvais dans l'Écriture, il les accomplit. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuves, mais justement, on peut traverser toutes nos épreuves. Et le Seigneur nous donne vraiment, par sa parole, une lampe à nos pieds et une lumière. Dimanche, nous avions une étude biblique dans la salle où nous nous réunissons. Nous avions une étude biblique sur l'Ecclésiaste. Et c'était le chapitre 11e. Et il y avait ce verset, « Là où l'arbre tombe, là aussi il demeure. S'il tombe au nord, il reste au nord. S'il tombe au midi, il reste au midi. » Et en voyage, je faisais des conférences en Suisse. Et voilà qu'à 6h du matin, la mère de mes 5 enfants meurt. À 10h, je devais prêcher dans l'église. Mais à 6h du matin, c'était fini. Pourtant, il était très bien. Il y avait 2 mois que nous étions séparés. Je faisais des camps en Europe, dans différents pays. J'étais rentré, on m'avait téléphoné. Tu vas retrouver ta femme d'une façon merveilleuse, elle est tout à fait bien. Et puis, elle était à quelques moments de son départ auprès du Seigneur. Et alors, à 6h du matin, bon, on n'était pas chez soi, j'habitais Nice à ce moment-là, et c'était à Morges que ça se passait. Vous connaissez un peu cette histoire peut-être. Je m'excuse d'être un peu personnel là-dessus. Mais c'est pour vous dire que c'est vrai. Il y a les autorités qui viennent. Quand quelqu'un meurt dans une chambre comme ça qui n'est pas à soi, le docteur vient, les autorités. Alors qu'est-ce qu'on fait, M. Raspi? Est-ce qu'on va faire le transport à Nice? J'habite à Nice. Évidemment, la première pensée, il faudrait faire le transport du corps à Nice pour qu'elle soit enterrée là, près du lieu que nous habitons. Mais le Seigneur, qui sait bien mieux que nous, savait très bien que je ne resterai pas à Nice. Hein? C'est drôle. Moi, j'y pensais pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Les gens sont là, puis ils disent, qu'est-ce que nous faisons, ce qu'on fait, le transport, qui aurait coûté très cher. J'ai dit, j'ai entendu, là où l'arbre tombe, là aussi, il demeure. J'obéis. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les autorités de la ville de Morges n'acceptaient pas l'étranger. Et ils l'ont fait. Quand j'ai dit, j'aimerais qu'elle puisse être enterrée à Morges, ah ben, si vous restez et que vous faites quand même vos conférences, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait 1500 personnes qui étaient là réunies. Eh bien, j'ai dit, je suis un soldat. Quand le meilleur camarade tombe à vos côtés,
On ne s'arrête pas, la guerre continue. Hein. Alors il faut combattre. Mais vous ne pourrez pas. Le Seigneur nous donne la force. Nous devons vivre ce que nous prêchons. Et ça, je l'ai réalisé. J'ai dû, ces dernières semaines, parler à des gens qui sont tout près du départ, et puis j'ai cherché à leur montrer qu'il ne fallait pas être écrasé, mais se réjouir, si le Seigneur le veut. Puis juste après, j'apprends que moi aussi, je suis tout près, selon les médecins. Alors, il faut vivre ce que nous prêchons. Mais ce que Dieu veut, il le fait. C'est extraordinaire. Donc, je crois à cette parole. Il éprouve. Une dizaine de jours après cette grosse épreuve, il m'a parlé. Comment ? Une nuit, vers 3h du matin, j'ai entendu dans mon cœur cette parole. Si un jour ta situation doit changer, ça ne pourrait être qu'avec quelqu'un que tu ne connais pas et qui n'a pas connu ta femme. Bon. Heureusement qu'il m'a dit cela. Parce que j'avais beaucoup d'amis qui avait tout préparé. J'ai même reçu une lettre qui me disait, le jour de la mort de Vanda, j'ai mis mon célibat sur l'autel du sacrifice. Non. Et je vous dis ça parce que vous la connaissez maintenant. Je ne la connaissais pas. Elle n'habitait pas ici. Elle était née en Chine. Voilà ce que le Seigneur fait. Voilà ce qu'il fait. C'est vrai. Quand on dépend de lui, qu'on s'attend à lui, il est fidèle. Elle m'a donné Eva, qui pour moi est l'exaucement des prières de Vanda, qui avait toujours dit à ses enfants, si tu devais rester, si papa devait rester seul, je voudrais qu'il ait une compagne. Vous savez, quand on a 5 enfants, c'est pas facile. Mais le Seigneur est fidèle. Il éprouve, mais il a aussi compassion. Et si vous vous appuyez sur sa parole, si vous dites au Seigneur, mais tu l'as dit, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il va faire. Pourquoi pouvons-nous croire que ce livre est la parole de Dieu? Parce que chaque jour dans notre vie quotidienne, nous réalisons que c'est vrai. Mais maintenant, une troisième question. Doit-on distinguer le peuple d'Israël de l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que l'Église, c'est la suite d'Israël? Est-ce qu'il n'y a plus rien pour Israël? Ou bien est-ce que Israël reste toujours le peuple de Dieu et l'Église, c'est un autre peuple? Mais quel peuple? Le peuple de Jésus. Et où est Jésus?
Au ciel.
Alors, notre Église, c'est un peuple céleste. Et si ce n'est pas un peuple céleste, vous avez des divisions à n'en plus finir. Il nous faut réaliser que nous sommes un peuple céleste. Parce que notre chef, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous rassemble. C'est lui qui nous met ensemble. On ne se réunit pas à cause d'un homme ou pour le nom d'un homme, comme ça se fait si souvent, mais on se réunit selon ce que Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu. Mais aujourd'hui, pour que l'Église compte, il faut que ce soit une grande Église. Il faut qu'on soit extrêmement nombreux pour en mettre plein la vue, pour impressionner les catholiques qui étaient les plus nombreux avant. Vous croyez que c'est ça? Et convertir les gens, c'est pas en faire des anti-catholiques, c'est en faire des authentiques chrétiens qui aiment les âmes, qui n'ont pas eu tous nos privilèges. Alors il nous faut voir ce que la parole dit d'Israël, et quel est l'avenir d'Israël, et ce qu'elle dit de l'Église. Ce qu'est l'Église, peuple céleste. Que savons-nous au sujet de la résurrection? Ce sont tous des sujets qu'on a déjà étudiés ici. Hein. Alors, il faut voir maintenant ce qui vous reste. Parce que vous résumez si souvent dans la liturgie qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Alors, qu'est-ce que l'Écriture nous dit de la résurrection? Qui est le premier ressuscité? Jésus-Christ. Et après Jésus-Christ, qui est-ce qui doit ressusciter? Les croyants. Quand il revient sur les nuées, les morts en Christ ressuscitent premièrement. Et ils vont où? Dans la maison du Père, avec Jésus. De sorte que quand Jésus revient, qu'est-ce qui se passe? Il revient avec son Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Alors, c'est pas seulement Christ qui va venir. C'est Christ et son Église. Mais pour qu'il vienne avec son Église, il faut qu'il l'ait pris auprès de lui. C'est pourquoi ce verset est très clair, je te garderai de l'heure de l'épreuve. Et il y a beaucoup de gens qui me téléphonent, souvent ils n'en peuvent plus de vivre sur cette terre. Parce que tout en voulant suivre le Seigneur, ça devient de plus en plus difficile. Et il y a un moment où vous sentirez que vous n'avez plus votre place. Alors, n'ayant plus votre place, vous soupirerez après ce moment de l'enlèvement. Mais il y en a qui disent l'enlèvement, c'est une doctrine de démon. C'est pour vous illusionner. Vous croyez ça? J'ai une bienheureuse espérance. Et je sais que Jésus a dit, si je m'en vais, je reviendrai. Et qu'est-ce qu'il fait là-haut? Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, je reviendrai. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. C'est clair. Alors, je m'appuie sur cette parole. Et quand on dit que tout le monde doit mourir, c'est pas vrai. Il y a une génération qui ne passera pas par la mort. Et vous avez déjà des exemples dans l'Écriture de gens qui ont été enlevés au ciel sans passer par la mort. Et à ce moment-là, de sa venue sur les nuées, l'étoile du matin qui n'est vue que sur ceux qui veillent, par ceux qui veillent, eh bien, le Seigneur les ravit. Le numéro 5, le monde se convertira-t-il par la prédication de l'Évangile? Vous êtes d'accord? C'est clair que c'est non. D'après l'Écriture, on va voir ces textes. 7. Pourquoi l'enlèvement de l'Église n'est pas la manifestation du Christ en gloire? Pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Parce qu'il est dit, quand il revient en gloire, tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé. cela montre, alors plutôt une bienheureuse espérance hein, pour eux, quand le Christ revient en gloire, il est venu en grâce une première fois, mais il reviendra en gloire. Mais il établira son règne par le jugement. Et alors, évidemment, je ne pense pas que le monde verra l'enlèvement de l'Église. Mais ils sauront qu'il y a des gens qui ont disparu. Et alors, qu'est-ce qu'ils feront? Ils voudront expliquer tout cela. Et alors, finalement, ceux qui n'y croyaient pas et qui connaissaient cette vérité, bien crachant le morceau, il est peut-être venu. Et vous savez, je comprends qu'alors, on persécutera ceux qui parlent de Jésus. Ce sera la grande tribulation. Et alors, le Seigneur établit son règne, changera toutes ses dispensations. Et c'est la question 9, peut-on discerner dans le plan de Dieu pour les hommes diverses dispensations ou âges? Dis, sommes-nous au clair au sujet des différents jugements dont nous parlent les Écritures? Quand le premier ciel et la première terre auront disparu, donc, la fin du monde, qu'est-ce qui commencera? L'état éternel. Hein? Alors, comment pouvons-nous savoir ce que sera l'état éternel? Croyez que je vais vous le dire? J'y suis pas allé. Alors, je ne vais pas vous raconter des histoires. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je connais la personne qui règnera. Alors, quand on connaît la personne qui règnera, on sait ce que ça pourrait être. C'est par la connaissance personnelle de Jésus que vous saurez ce que peut être un état éternel de justice, de paix, de joie. Et c'est cela qui sera le centre de notre message. Alors, comment vivre dans ce présent siècle? Parce que si vous avez une telle espérance dans vos cœurs, vous n'allez pas vivre n'importe comment. Il n'y a pas de vérité plus forte, plus puissante que l'attente du retour du Seigneur pour sanctifier notre vie, pour nous consoler dans nos épreuves et pour nous permettre de persévérer. Alors, vous sentez-vous concerné par le siècle à venir? Dans le siècle à venir, les croyants qui auront été fidèles auront des tâches à partager avec Jésus. Alors, nous sommes intéressés par ce siècle à venir. Il va nous former pour cela. Et nous croyons que le Seigneur va nous bénir. Maintenant, je vous ai mis encore une petite note à la page 7 sur le sens du mot « siècle » d'après le dictionnaire encyclopédique de Westphal. Le siècle, durée de son temps, n'est pas connu des auteurs bibliques pour qui il n'existait guère de période plus longue qu'une génération. L'hébreu Olam de l'Ancien Testament, comme le grec Aion du Nouveau Testament, sont rendus au pluriel par siècle, au sens indéterminé. Ce sont donc des âges incommensurables, soit dans le passé, soit dans l'avenir, exprimant une idée d'éternité. L'Éternel est appelé le rocher des siècles. Ésaïe 26. Son règne, il est de tous les siècles. il est parlé avant tous les siècles, c'est l'éternité passée. Hein. Alors nous aurons l'occasion de nous arrêter sur tous ces textes. Au singulier, ce siècle représente le monde, considéré comme l'époque en cours, avec une nuance de blâme contre sa vanité. Il est souvent opposé au siècle à venir, et parfois appelé, avec plus de précision, le présent siècle. L'accomplissement des antiques prophéties par Jésus-Christ donnait aux chrétiens l'impression d'être à la fin des siècles, ou des âges, ou des temps. Les apocalypses reposaient sur la division absolue de l'histoire en deux âges, ou siècles, et où le siècle présent est le siècle à venir. Alors, je résumais cela en vous disant, le siècle présent, c'est le temps où Jésus ne règne pas. Vous ne devez pas vous attendre au règne de Jésus maintenant. Mais il doit régner où? Dans votre cœur. Et alors, s'il règne dans votre cœur, c'est tout votre comportement et qui parle au monde. Et c'est là le grand message que nous pouvons donner aux âmes que nous rencontrons, que nous côtoyons, avec lesquelles nous travaillons. C'est pas simplement participer à un effort d'évangélisation pour faire connaître une doctrine, mais c'est vivre en authentique disciple de Jésus. Et alors, ce que nous savons, quand Jésus était sur la terre, il était bien reçu?
Non.
Alors, vous voulez être bien reçu?
Non.
Vous voulez être reconnu par le monde? Oh, il faut que mon Église soit reconnue par le monde. Qui est le prince de ce monde? C'est Satan. Alors, vous demandez que votre Église soit reconnue par Satan. Et là. Ce que l'Écriture va nous montrer, c'est que la religion, elle sera mise de côté par les autorités, justement. Et c'est ce que vous voyez de plus en plus. Les autorités mettent toutes les vérités bibliques de côté. Et vous voudriez être reconnu par ces autorités? Elles vous détruiront. Dieu notre Père, nous savons que nous sommes dans les derniers jours, dans les temps de la fin, et que nous allons voir encore bien des choses épouvantables se passer dans un monde qui ne veut pas de toi, qui amasse la colère pour son avenir. Mais ce que tu nous as enseigné, c'est que tu es venu pour que nous puissions échapper à la colère qui vient. Et c'est toi que nous attendons. C'est toi qui es notre espérance. Une espérance vivante qui ne confond point, que nous puissions ce soir nous endormir avec cette certitude que nous fermons nos yeux en pensant à toi. Nous te remercions pour ces rencontres, nous les plaçons sous ton regard et nous te demandons que cette retraite, si c'est la dernière, soit vraiment ta retraite pour l'honneur et la gloire de Jésus et de Jésus seul. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.